Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrées au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut. Yeah. Alors bienvenue.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de souci.
Je pensais avoir tout vu, ou presque, des agissements des lobbies. Ils
sont dans les campagnes, dans les villes. Darling, I want my gay rights now.
Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi, je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Et c'est parti pour une heure de radio en direct par et pour les personnes queer et celles qui ne savent pas trop encore. Prenez place à la table du lobby. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Elle a mis ses plus beaux ongles pour nous. Salut Luluf. Salut Luluf.
Salut Colin. Salut tout le monde.
Ça me fait hyper plaisir de te voir. On ne s'est pas vu depuis la dernière émission, ce qui est rare.
Tout à fait. Et là, je suis ravie d'être là.
Notre fournisseur de pansements post-torso préféré est là également. Salut Mal.
Bonsoir tout le monde.
Ça va que je te présente comme ça, c'est ok? On ne s'est pas du tout concerté.
Oui, on m'appelle
avant.
Aussi le pro. Détecteur.
Oh, wow. Allez, côté invité, puisque nous sommes à mi-chemin entre les Césars et la journée internationale de lutte contre pour les droits des femmes. C'est une catastrophe. On recommence l'émission. Générique. Pour les droits des femmes, eh bien, on a mixé les deux sujets et voici le programme. En deuxième partie d'émission, il sera question d'un ciné-club pas comme les autres. Depuis 2 ans, Elsa et Ilana partagent sur Instagram leurs coups de cœur et leurs déceptions cinématographiques en offrant un regard queer, féministe et surtout aiguisé sur les séries et les films du moment. Ce jeudi 5 mars, elle nous invite au cinéma Le Méliès à Montreuil pour une projection du film Taekwondo de Marco Berger, une pépite d'homo-érotisme, on en parle, à partir de 20h40. Et puis avant ça, coup de projecteur sur le collectif Femstival qui organise divers événements à Paris et ailleurs. Vous êtes déjà peut-être rendu à la Bikini Bottom, la soirée à la gloire des bottoms, ou encore à la 50-50, la soirée 100% non-binaire. Et bien ce samedi, vous avez rendez-vous à la Flèche d'Or pour la soirée Mini-Jupe Maxi-Cerveau, alias la soirée Bimbo Intello. Et deux membres du collectif sont avec nous pour nous en dire plus. Lisa et Rita sont avec nous.
Bonsoir.
Le lobby. Radio Campus Paris.
Mais oui, bonsoir à toutes les deux. On est ravis d'être avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Eh ben merci pour l'invitation.
Ouais, avec plaisir.
Soyez les bienvenus. Alors, Mini-Jupe Maxi Cerveau, c'est le nom de cette soirée organisée à la veille donc de la journée internationale des droits des femmes. J'ai beaucoup de mal à le dire aujourd'hui. C'est terrible. Ou, comme vous préférez le dire, la journée de la femme.
Alors,
clarifions.
On n'a pas dit ça.
Ah bah, clarifions tout de suite.
On a dit que c'était le before. Et donc,
d'accord.
La veille, la journée de la femme.
Oui, parce que la journée internationale des...
Contre les droits des femmes. Déjà, c'est difficile à dire.
On ne peut pas se l'approprier, c'est très important.
Oui, disons que ça parle de sujets quand même vachement lourds et de problématiques qui parfois sont hyper dures et tout. Et nous, c'est vrai qu'on a un ton beaucoup plus léger. Donc, c'est pour ça qu'on ne voulait pas s'approprier cette journée. Et notre soirée qui est quand même super légère. Dans le ton, quoi.
Ça vient un peu compléter, quoi. Il y a la soirée... Enfin, c'est pas que votre soirée soit pas politique, mais disons qu'il y a la journée un peu lourde, et puis vous venez apporter cette légèreté aussi en complément, quoi.
Ouais.
C'est votre contribution. Alors, c'est la 3e édition. Ce sera une soirée en 2 parties, avec d'abord le gros cerveau chaud, et puis des DJ sets jusqu'à 2h du matin, et ça se passe, bien sûr, à la Flèche d'Or.
C'est ça.
On a tout dit. Lucie.
En première partie, donc, des conférences en mode TED Talk de stars avec Louise Bizou, Farah Youssef, Noam Sinso, Mother Ginger et Lisa Granado. Quel sera le sujet? Parce qu'on a vu sur la communication que c'était très en lien avec des chercheuses scientifiques. Est-ce qu'il y a un lien comme ça autour de la recherche scientifique, en tout cas des gros cerveaux? Est-ce que ces TED Talks seront consacrés à l'intelligence femme?
Tu veux y aller, Rita?
Oui. Ce sera très intelligent, comme il se doit, car avec tous ces cerveaux qui nous servent d'illustration, nous sommes obligés de tenir le standard qu'on a nous-mêmes placé. Les visuels qui étaient construits sur des chercheuses historiques, pour le coup, c'était plutôt en rapport avec la journée internationale pour les droits des femmes, qui a lieu le lendemain, enfin, de rappeler un peu des femmes qui ont fait l'histoire des sciences. Mais après, oui, ça reste scientifique, puisque c'est une série de conférences sous un format plutôt PowerPoint en général. qui aborde divers sujets comme la sociologie notamment.
Alors, je crois qu'on est très science dure entre guillemets plus que science sociale pour cette édition. Enfin, je sais pas si la.
Ouais. Bah par exemple la science dure du coaching en séduction avec Lisa.
Ah oui.
Génial.
Qu'est-ce qu'on va avoir ? Il y aura Farah qui va parler d'hyperporn. Je ne sais pas ce que c'est.
Elle se découvrira.
Et d'autres choses.
Trop bien.
Ouais, une conférence sur les sacs à main, notamment.
Une conférence sur les sacs à main.
Génial.
Donc oui, science dure.
Science dure. Très, très, très dure.
Très, très dure.
Le titre de cette soirée, d'ailleurs, sonne comme un manifeste. Plus la jupe est mini, plus le cerveau est gros. Célébrer les femmes, c'est aussi lutter contre le cliché de la bimbo écervelée, car l'identité femme est parfois mal vue et mal comprise. Jusque parfois, dans nos communautés, vous en dites quoi de ce cliché, de lutter contre ce cliché ?
Bah, nous, on en joue de ce cliché, on se moque de ce cliché. Des fois, on l'incarne, des fois, on incarne l'inverse. Et dans nos soirées, surtout la mini-jupe Maxi Cerveau, on floute un peu. Enfin, on est des fausses intello et des fausses meufs stupides, quoi. En fait, on est des fois, bah, on ne sait pas si on est vraiment bête ou alors si on est vraiment brillante. Je pense qu'on... Non, si ça, on sait qu'on n'est vraiment pas tout le temps brillante.
Ça, on le sait.
Mais voilà, en fait, outre que de se battre contre ce cliché, juste on s'amuse avec ce cliché parce que ça nous fait rire. Même le truc que tu dis, science dure, c'est un peu comme si on avait demandé à un enfant de dire qu'est-ce que c'est que des trucs intelligents, de faire un mood board de trucs intelligents.
Et là, on met plein de théorèmes mathématiques qu'on ne comprend pas, des schémas de neurones et des schémas de chimie. Et des cerveaux dessinés partout, c'est ça
l'intelligence. Et en même temps, on va quand même apprendre des trucs. Il y a quand même une vraie...
Personne n'est prêt.
Dans votre magazine Femme Actuelle, dont on va parler en deuxième partie, vous avez un manifeste dans lequel vous donnez vos définitions du mot femme. Il y en a plusieurs. On a personne queer à la présentation féminine, lesbienne qui utilise les codes de la féminité à des fins politiques et qui désigne des féminités paria, non autorisées, de gouine, meuf trans, PD, EE, TDS. Vous nous racontez un petit peu ces définitions. Comment est-ce que vous êtes tombée sur ces définitions ? Est-ce que ça a été au bout de longues discussions ? Est-ce que vous vous êtes inspirée d'autres auteurs, autrices ?
Alors, on s'est inspirée d'une autrice qui s'appelle Lisa Granado. En fait, la première partie de ce manifeste est très largement inspirée d'un extrait de ton mémoire.
Ouais.
Et les définitions de femmes telles qu'on les a acceptées collectivement et un peu modifiées, mais c'est aussi basé sur des choses que tu as... Enfin, des mots que tu as toi-même posés, notamment... à l'aide d'un post Instagram historique qui t'avait valu à l'époque un certain backlash de la part de lesbiennes énervées.
Ouais.
Un post qui reprenait ces définitions, qui définissait ce que c'était être femme. Le backlash, c'était que
en
pour
gros,
les personnes, c'était pas, n'étaient pas d'accord.
Les personnes, vraiment, on parle de 3 ou 4 personnes grand maximum.
Bon.
Donc vraiment un shitstorm d'enfer. Ces personnes-là, en fait, n'étaient pas d'accord avec le fait d'ouvrir la définition de femme à d'autres identités féminines, queer féminines, mises de côté. Et alors que c'est nous ce qu'on revendique, ce qu'on revendiquait à l'époque, bah, il y avait certaines meufs lesbiennes qui trouvaient que c'était de l'invisibilisation des lesbiennes. Et on n'est toujours pas d'accord, mais j'espère que ces personnes ont changé d'avis depuis.
Je pense, et notamment grâce à tous les événements que vous organisez, tous les contenus que vous créez. Au cours de certaines de vos soirées, vous organisez des concours de Miss avec des catégories, il y a notamment Hot Femme, Hard Femme, Bimbo. Vous vous réappropriez ce rituel du coup du concours de Miss que chacun connaît, et ça m'a fait penser à la réappropriation des concours avec le performatif Femme Contest qui s'est passé à Paris la semaine dernière, ou le performatif Butch Contest qu'il y a eu à Marseille il y a le mois dernier. Je crois d'ailleurs, Rita, que tu étais dans le jury de ce concours. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'était à Marseille et à Paris, il y a eu une foule de lesbiennes et alliées qui se sont précipitées dans ces événements? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a autant d'engouement vis-à-vis de ces temps-là de célébration des identités femmes, Butch? Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec, avec ces concours?
Alors, je peux me tromper parce que je ne comprends pas tout à ces choses de Jones, mais je crois que ça vient de trend TikTok à la base, les performatifs contests, et que ça joue peut-être sur l'engouement des gens, parce que quand on voit des choses sur Internet et qu'ensuite elles arrivent dans la vraie vie,
c'est
ça
magique.
Fait plaisir, oui. mais pour notre part, ça ne vient pas d'une trend TikTok, car nous ne savons pas utiliser TikTok, car nous avons plus de 30 ans. je ne sais pas, tu veux rappeler, Lisa, d'où ça venait, cette idée
C'était une idée qui traînait au fond de ma tête il y a longtemps, parce que à Marseille, historiquement, il y avait eu déjà un concours de cagole dans les années 90, qui depuis est... a été ressuscité il y a quelques années aussi. Et j'ai été lauréate une année aussi de ce concours.
En quelle année tu
2024.
Wow.
Ouais, il y a deux ans. Et en fait, et c'est vrai que je me suis dit, mais il faudrait quelque chose version queer, femme. Parce que c'est vrai que... On a tellement de choses, de catégories, de... En fait, on a tellement une culture riche que je voyais bien ça à être célébré, surtout les catégories. Après, je pense que d'un niveau du gender, genre ce qui est... ce qui rend content, c'est de performer, du coup, que ce soit le performatif boot contest ou femme contest, c'est en fait de pouvoir rentrer... à fond dans une identité, de se l'approprier, de montrer qu'on peut être à l'extrême du spectre, qu'on peut représenter qu'on peut représenter un extrême du spectre. Je pense, Rita, toi aussi tu parles bien de ces choses-là.
Je pense que tu viens de le dire, mais que, enfin, peut-être pour le côté femme, en tout cas, c'est vrai que la question de la performance de genre a été vachement étudiée, revendiquée, etc., par des théoriciens du genre, mais que ça a toujours été souvent tourné vers les masculinités. Et que avoir
pourquoi
propos,
d'ailleurs, comment est-ce que tu l'expliques ça, il y a un rejet au sein de notre communauté,
enfin, en tout cas plutôt dans les communautés lesbiennes et affiliées. il y a un truc historique que je ne sais pas si je sais complètement expliquer, mais en fait, après la remise au placard des communautés butch femmes dans les années 70, qui s'est fait du fait des féministes et lesbiennes universitaires qui voyaient dans ces performances de genre très binaire une espèce de singerie de l'hétérosexualité qui était répréhensible et problématique, il y a eu dans les années 90 un regain d'intérêt encore de la part des théoriciens, des personnes qui faisaient de la recherche, etc., pour ces identités, mais qui ont été très tournées vers l'identité butch. Et en fait, il a fallu attendre très longtemps pour qu'il y ait des choses, des écrits qui soient produits sur les femmes et qui ont souvent été hors du cercle universitaire, qui ont été faits sur Internet, sur Tumblr, ou depuis plus longtemps par de rares autrices des icônes comme Joan Nessel ou Dorothy Allison, par exemple.
On va y revenir, je crois, tout à l'heure.
mais voilà, c'est vrai qu'il y avait un peu cette idée que le queer et la subversion, parce qu'on est souvent un peu auprès de ces personnes dans une recherche de la subversion, ce qui peut aussi se questionner, se critiquer d'ailleurs, qui s'incarnait dans les masculinités queer. Et ce qui peut s'expliquer par le fait qu'à l'époque des communautés butch femmes, les butch vivaient une certaine violence que les femmes ne vivaient pas, du fait de leur visibilité déjà, du fait qu'elles correspondaient plus à l'idée de l'inverti, vraiment de la vraie dépravée. Par rapport à leur positionnement sur le spectre du genre, et qu'en fait du coup tout s'est centré dessus, et ça s'explique et ça se comprend, mais c'est quand même un peu dommage qu'il y ait eu toute la question femme qui a été autant laissée de côté. Et voilà, et du coup nous on trouve ça super de pouvoir se réapproprier ça, et d'une manière festive et d'une manière drôle, mais aussi d'une manière qui dit que c'est des identités qui sont valides et qui ont un sens et qui sont politiques, bien sûr.
On va revenir tout à l'heure effectivement à cet aspect théorique et pas moins politique de vos soirées. Un mot quand même pour dire que c'est des soirées qui sont politiques, pas seulement pour les sujets qu'elles abordent, mais aussi parce que je sais que par exemple pour la Bikini Bottom, les recettes avaient été reversées à des cagnottes palestiniennes.
Alors, les recettes de la tombola.
De la tombola, exactement. Mais en tout cas, il y a quand même toujours une façon de se relier à un contexte, l'art international, politique, en tout cas dans vos soirées. C'est pas du tout voilà, un truc qu'on va faire un peu en scoop du monde le temps d'une soirée à la Flèche d'Or. En plus, ça a lieu à la Flèche d'Or.
Ben, c'est vrai que c'est hyper important pour nous de travailler avec la Flèche, ce qui va bientôt prendre fin d'ailleurs, puisque la Flèche ferme en juin. Mais que c'est un des lieux où vraiment on trouve un positionnement politique qui résonne avec nous et avec lequel on est super aligné. Et c'est vrai qu'on s'inquiète un peu de est-ce qu'on va pouvoir retrouver ça ailleurs, et qui peut se retrouver dans leur fonctionnement, le fait que c'est un lieu festif, mais pas que. Il y a beaucoup d'organisations qui se fait en dehors du temps soirée, il y a des maraudes, il y a plein de choses, il y a des cantines solidaires. Et que c'est aussi un lieu, dans les questions d'accès au public, qui maintient des prix assez bas, notamment la nourriture, les boissons, etc. Donc ça, c'est déjà important. Et effectivement, le fait d'essayer de participer à des économies solidaires internationales ou pas, c'est s'inscrire dans une démarche qui fait sens, parce que la queerness, c'est pas que du développement personnel, c'est politique et c'est anticapitaliste, et à un moment il faut se positionner là-dedans et prendre action là-dedans, sinon c'est que du vent, je trouve. Nous trouvons.
Oui.
Eh ben, on va continuer à en parler dans un instant. Rita et Elisa, vous restez avec nous. On va parler donc du festival d'identité femme, pardon, et de cette soirée mini-jupe maxi-cerveau, et on écoute le dernier titre d'une autre femme. Voici Ici Modesta sur Radio Campus Paris.
Les lumières nous ont tués, j'aime pas le soleil, je monte une armée, j'ai pas sommeil, j'ai pas sommeil. Les lumières nous ont tués, j'aime pas le soleil, je monte une armée, j'ai pas sommeil, j'ai pas sommeil. Je suis une comète, je brûle, je ne dors pas, j'ai deux, trois cibles. Genre celui qui a détruit Sarah. Et sur le haut de la colline, j'aiguise mon arc. Ramène tes copines, on va reprendre le littoral. Le littoral. J'ai le regard froid de Sibérie. J'étais la fleur, je suis le fusil. Je pourrais tuer par erreur comme une brise. Mes sœurs, je pourrais tuer par erreur. J'ai la couleur de l'incendie. J'ai dans la tête quelques débris. Je t'offre un bouquet d'horreur de la part de mes sœurs. Je t'offre un bouquet d'horreur. Les lumières nous ont tués. J'aime pas le soleil. Je monte une armée. J'ai pas sommeil. J'ai pas sommeil. Les lumières nous ont tués. J'aime pas le soleil. Je monte une armée. J'ai pas sommeil. J'ai pas sommeil. Je survis au feu comme salamandre. Je bouge une phalange. Et j'ouvre un territoire. J'aime une sirène et ses méandres. On va s'étendre. La terre c'est mon dortoir. On les attrape ce soir. Si tu veux, fais pas un grand feu. Moi j'ai des temps d'y voir. Dis-leur qu'il est trop tard. Si tu peux, moi je bois. La soif, j'ai la soif des grands tas. Les lumières nous ont tués. J'aime pas le soleil. Je monte une armée. J'ai pas sommeil. J'ai pas sommeil. Les lumières nous ont tués. J'aime pas le soleil. Je monte une armée. J'ai pas sommeil. J'ai pas sommeil.
Salamandre, extrait du prochain EP d'Ici Modesta, vous allez bientôt disparaître, sortie prévue le 13 mars. Et puis Ici Modesta est aussi à découvrir en live à la Boule Noire, en première partie de Kelly Boy, c'est ce samedi, elle est 20h19.
Le lobby. Radio Campus
Paris, yeah.
Mais ce samedi, c'est aussi la troisième édition de la soirée mini-jupe maxi-cerveau. C'est à la Flèche d'Or, soirée organisée par le collectif Femstival. On en parle avec deux de ses membres, donc Rita et Lisa, qui sont toujours avec nous. Peut-être quelques mots sur l'histoire du Femstival. Comment est-ce qu'il s'est créé? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je sais que vous êtes quatre, je crois, dans le collectif. Voilà, comment ça s'est organisé?
Alors, ça, tout a commencé par une chaude soirée de la fin du printemps 2023. où en fait on est allé boire des verres finalement entre copines, mais on ne se connaissait pas très bien. Ouais. On était quatre personnes où il y avait des amitiés un peu en diagonale comme ça, mais quatre personnes qui savaient les unes des autres qu'on était assez unies par la question femme. Et les pintes se vidant et les langues se déliant, on s'est dit, mais attendez, il faut organiser un festival, en fait.
Et là, le jeu de mots est arrivé, un festival.
C'est ça, mais en fait, à la base, c'était juste un raccourci pour parler du projet. Et à la fin, il a fallu trouver un nom, on est resté avec ça. Je ne sais pas si c'était la meilleure décision de notre vie, mais c'est le nom, en tout cas.
Quand on n'a pas de meilleures idées, des fois.
Ah, c'est catchy, franchement, ça marche. Non,
et pas. Tout de suite, vous saviez que vous aviez envie de faire plutôt des soirées, plutôt des expos, plutôt un livre, parce qu'il y a eu tout ça après. Vous aviez plutôt un type d'événement dans le viseur ou,
Et ben, on a vraiment commencé avec ce festival de 3 jours qui comportait une expo, une table ronde et après divers concerts, performances, ouais. Concours de Miss et tout. Et c'était plutôt là-dessus qu'on allait rester. Mais en fait, on a commencé à avoir plein d'idées.
Ouais.
Il y a eu notamment une exposition d'art visuel au Point Éphémère il y a quelques temps qui s'appelait Regard Femme, Créole et Insulaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'est arrivé sur, c'est avec quelqu'un qui a lancé cette idée? Comment est-ce que vous avez rassemblé les artistes? Comment ça s'est créé?
Arita va parler de la genèse de ce projet.
Tout à fait. Alors, tout a commencé parce qu'on avait des amis qui sont artistes de Porto Rico qui venaient à Paris en septembre. Et donc, il y en a une des deux qui est photographe. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup son travail. Et j'ai proposé qu'on essaie de faire quelque chose à Paris. Elle avait grave envie. Du coup, c'était parti de là. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que certaines de ses démarches, certaines de ses photos, etc., résonnaient avec le travail d'autres artistes que je connaissais déjà. Qui n'étaient pas des personnes portoricaines, mais qui étaient des personnes qui venaient de territoires insulaires plutôt. Oui, voilà. Et donc, moi et Mila, qui n'est pas avec nous ce soir, on s'est dit qu'on avait envie de faire une expo collective qui serait traversée par ces questions-là. Du coup, on a commencé à contacter des artistes qu'on connaissait. On connaissait la plupart des personnes qu'on a invitées, mais il y en a qu'on a découvert à cette occasion quand même. Et voilà, et pour essayer de voir un peu quel lien, quelle connexion, mais aussi quelle différence on pouvait dégager entre ces différentes expériences et ces différentes propositions artistiques.
Et la diversité des identités femmes, vous l'avez aussi présentée avec votre magazine Femme Actuelle cet été à Marseille. Vous y étiez pour le lancement de ce magazine. J'ai eu la chance de pouvoir le consulter. C'est vraiment une centaine de pages avec des témoignages, des interviews, des jeux, des photos, des lauréates, des concours de femmes. C'est un objet d'art. Enfin, il y a vraiment une DA graphique qui est assez exceptionnelle. Et c'est vraiment une archive pour les questions femmes. Enfin, moi, j'ai vraiment été bouleversée par la lecture de cet objet. C'est quoi l'histoire, pareil, de cet objet? Comment est-ce que vous vous êtes dit, là, est-ce que c'est sur cette question de l'archive, justement, de produire des contenus, de les garder et de présenter, justement, toute la diversité des identités femmes, de dire, bah voilà, aujourd'hui, en 2000, je sais plus, c'est sorti en 2025, non?
Oui.
Voilà, 2025. On a besoin de marquer un point d'étape sur nos recherches en tant que chercheuse en sciences dures sur l'identité femme.
Ben, c'est un projet qui date d'il y a vraiment plusieurs années parce que à l'époque j'avais rencontré Aquafem qui fait aussi des zines, qui écrit beaucoup, qui fait de la poésie, qui fait plein de choses, et elle m'avait lancé l'idée qu'on fasse même un zine et de là elle invite Vinciane Mandrin. Vraiment, on a échangé 2 mails pour dire que c'était vraiment une super idée et on a enterré ça pendant genre 3 ans. Puis, je crois, Rita, c'était évident. Enfin, en fait, je sais plus qui a reparlé de ce projet. Et ben, ça l'a fait renaître et c'était obligatoire que genre tu sois dedans et qu'il y ait les autres membres du Femstival aussi. Parce que juste, je sais pas, c'est évident, quoi, c'est tout. Et oui, en effet, c'est vrai qu'on a à cœur l'archive, la création. Pour nous, il y a une mémoire qui doit se transmettre. On a été en 2024, on a fait un bref passage à New York. Rita m'a traînée aux archives. Lesbienne de New York créée par Joan Nessel. Mmh. Et c'est là qu'on a pu découvrir les archives FEM qui vraiment tenaient dans un un petit classeur minuscule. Il faut savoir que les archives lesbiennes à New York, c'est sur plusieurs étages. Enfin, c'est une maison entière remplie de trucs. Et vraiment, les femmes, c'était un petit classeur. Alors que c'est Joanne
Nessel.
Et
pourtant, ça a été créé par Joanne Nessel, ouais, qui a écrit Femme. Enfin, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est étonnant qu'il y ait eu si peu de... Okay.
Et du coup, moi, en train de mourir d'une affreuse grippe, mais Rita, à côté, a pris des photos, a réussi à sauvegarder en fait, ce qu'on avait vu pendant que j'étais en train de mourir sur la table d'à côté. Et ensuite, voilà, donc tout ça, moi, de mon côté aussi, quand j'avais fait mon mémoire, j'avais traduit beaucoup d'articles, j'en avais recensé pas mal. Du coup, il y avait tous ces extraits, en fait, on avait tellement de matière, même que ce soit Vinciane ou André, pareil, en fait, il y avait énormément de matière, il fallait compiler tout ça, quoi.
Est-ce que vous l'avez envoyé à des archives, ce magazine, Femme Actuelle ? Est-ce que vous avez fait ce travail à votre tour de recensement, de visibilisation de votre travail ? Et à quelles archives ?
Alors, je ne peux peut-être pas me souvenir de tout, mais en tout cas, on en a donné un exemplaire aux Archives lesbiennes de Paris. On en a fait parvenir un aux Archives lesbiennes de New York, mon ami, ça leur fait une belle jambe, mais...
Voilà. Mais c'est stylé de le dire.
C'est 100 pages quand même, donc ça a dû doubler leur pochette en termes de volume.
C'est vrai. Déjà. Bon, après, il y a une partie du magazine qui est une traduction de leurs propres archives.
C'est bien pour les Françaises en visite.
Oui. Et après, y a pas mal d'exemplaires qui ont été déposés dans plusieurs bibliothèques ambulantes, zinothèques, bibliobus et d'autres espaces. Et je me souviens vraiment pas de tout, mais voilà, quand même dans plusieurs exemplaires, au moins une dizaine, sont à disposition dans toute la France, dans des espaces où on peut les consulter.
Et aussi, on a envoyé un exemplaire à Joanne Nessel, qui est notre grande amie maintenant.
Notre amie.
Et qui en a déposé un autre supplémentaire aux archives lesbiennes de Melbourne.
Ça leur fait aussi une belle jambe, je pense.
mais si. Moi, je pense qu'il faut mettre partout. Et puis, ça ruissellera, ça reviendra, ça fera des petits. Trop bien. Et pas aux archives nationales de France.
Non. On n'y a pas pensé.
Et donc, dans ce magazine, dans Femme Actuelle, on oscille entre le magazine pour adolescentes, avec vraiment une DA, enfin vraiment de petits questionnaires, quelle femme es-tu, etc., avec plein de petits émojis, voilà. Et la thèse Bac plus 13, avec des concepts de haute voltige, vraiment, moi, dont j'avais jamais entendu parler, les femcelles, la low femme, le point commun entre les ballerines de danseuses et les stripper heels. Ça parle aussi beaucoup de regards blancs, de regards cisgenres sur les féminines. Enfin, c'est vraiment passionnant. Je vous invite tous et toutes à lire. Est-ce que vous aussi, vous avez découvert des choses, des concepts en rassemblant toutes ces personnes différentes ? Est-ce que vous êtes tombée de votre chaise ? Est-ce que...
Ben, tout à fait. Enfin, moi, je pense qu'il y a quelques pages qui sont dedans que j'ai toujours pas compris moi-même.
Pareil.
Mais oui, parce que, enfin, en plus de toutes les archives qu'on a collectées, de nos propres trucs dont parlait Lisa, on a quand même invité une vingtaine d'autrices. Plutôt en France, à contribuer, à écrire des textes exprès ou à nous donner des choses qu'elles avaient déjà ou aussi à nous donner des images, parce qu'il y a des plasticiennes aussi, pas que des gens qui ont écrit des choses. Donc, et comme chacune invitait ces gens, il y a des gens qui ont invité des gens que d'autres gens ne connaissaient pas, je sais pas si vous l'avez. Et du coup, évidemment, on a découvert le travail de personnes qu'on connaissait pas ou avec lesquelles on n'était pas très familières et tout, et c'était super.
Est-ce qu'il est encore accessible, ce magazine ? Est-ce qu'on peut l'acheter quelque part ? Ou est-ce qu'il est comme épuisé, en rupture de stock ?
Il est en rupture de stock.
Oh.
Mais on peut le consulter en ligne, gratuitement. Là, on est de gauche, donc c'était
en open source.
Est-ce qu'on peut mettre le lien, nous, sur Radio Campus Paris, à la page du lobby, peut-être ?
Oui, il faudrait qu'on fasse le launching nous-mêmes, parce qu'en fait, on l'a mis sur Internet, mais on a donné le lien à personne.
Ouais.
Donc, c'est l'étape suivante. Mais oui, en vrai, vous pouvez le mettre.
Vous nous direz.
Trop bien. Donc, l'identité femme, on en a beaucoup parlé là depuis le début de l'interview, s'inscrit dans une histoire. Et donc, quand je pense à l'histoire femme, je pense à Joanne Nessel, que vous avez donc eu l'honneur d'interviewer pour Femme Actuelle. Joanne Nessel, c'est une femme iconique qui aujourd'hui a 84 ans ou un peu plus, du coup, peut-être aujourd'hui 85. Elle vit en Australie, elle a écrit toute sa vie sur cette identité. Et je conseille à toutes les femmes, celles qui se questionnent, celles qui les aiment, les femmes, de la lire, en commençant par Femme, qui est un livre qui est publié chez Hystérie série qui est associée, qui est traduite par Noémie Grunewald. Vous étiez à cette rencontre donc toutes les deux. Vous l'avez rencontrée, c'était en visio, j'ai l'impression. Et dans l'interview, vous écrivez que vous êtes émue aux larmes. Enfin, il y a un moment où à la fin, où vous êtes vraiment extrêmement émue. Moi aussi, à la lecture, ma gorge s'est serrée. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre? Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'était facile de la contacter, de l'approcher? Comment est-ce qu'elle vous a répondu? Avec quel enthousiasme?
C'était très facile. Ouais. En fait, alors tout a commencé quand on est parti à New York. J'ai envoyé un mail à je sais plus son agente, en ne doutant de rien, en mode est-ce qu'on pourrait pas prendre un café avec Joan Nessel? Elle nous a dit ben non, parce qu'elle vit à Melbourne maintenant, qu'elle a 85 ans, elle ne sortira plus jamais de l'Australie. Enfin, 83 à l'époque. Et du coup, très bien, on a fait une croix sur notre petit café à Brooklyn avec Jojo. Mais quand on s'est mis sur Femme Actuelle, son agente m'avait donné son mail perso, par contre. J'étais en mode, ouais, j'ai le mail de Joan Nessel. Est-ce qu'on lui enverrait pas un message? Et on a fait ça, et elle a répondu direct, et elle était hyper enthousiaste. Elle-même, elle était hyper émue, en fait, aussi. Enfin, elle continue à nous écrire de temps en temps, elle est vraiment adorable.
C'est la passation, quoi.
Oui, il y a vraiment un truc comme ça, où elle se dit elle-même admirative de notre travail.
Mais si, c'est vrai, elle dit vraiment ça.
Et voilà, c'est vraiment un amour. Et du coup, ça a été assez rapide de caler l'interview. Enfin, elle a vraiment dit oui tout de suite. Et voilà, ensuite, ça a commencé. Au début, je pense qu'on était toutes un peu impressionnées, mais elle était...
tellement gentille, tellement adorable, franchement. Et puis, son côté où, en fait, elle nous transmet beaucoup. Et en même temps, elle trouve que nous aussi, on lui transmet des choses, que notre vision la touche. Et du coup, la rencontre, c'est vrai qu'elle était... c'était vraiment... C'était un beau moment, quoi. Et le fait qu'on garde contact, qu'on lui envoyait des petits stickers par la poste. Voilà, tout ça, ça fait que c'est notre bestie. Et on n'en est pas peu fiers.
C'est vrai.
Allez, à 20h32, Lucie, toi, en lisant donc ce magazine Femme Actuelle, tu t'es rappelée d'un souvenir de 2023 qui est déterminant dans ta vie de Gwyn. Tu vas nous raconter.
Oui, Joan Nessel, immense icône femme, raconte « Je suis née en 1940 et je suis entrée dans ce bar Butch Femme en 1957 à New York. C'est à ce moment-là que ma vie de femme a commencé. Moi, je suis née en 1997 et j'ai posé mes premiers faux ongles en 2023. Et c'est à ce moment-là que ma vie de femme a commencé. Ma vie de femme a commencé 4 ans après qu'ait commencé ma vie de Gwyn. J'ai compris que j'étais femme bien après avoir compris que j'étais lesbienne. Et ça me trouble, mais je crois qu'accepter d'être lesbienne a été plus simple qu'accepter ma femmeness. Parce que si l'homophobie était partout autour de moi, la misogynie était partout autour, mais aussi et surtout à l'intérieur de moi. Je repense émue à cette soirée de janvier où toute seule dans mon appartement, avec pour seul guide un tuto TikTok et ma fascination pour le faux et le brillant, j'ai maladroitement posé des capsules préalablement vernies à la va-vite sur mes 10 doigts. Évidemment, la pose était approximative et au fil de la soirée, les ongles sont tombés, un à un. J'aime imaginer qu'en les faisant tomber sur le dance floor, je les ai semés comme des graines de femme. Qu'arrosées de bière et de sueur, ces graines ont bourgeonné et fleuri, ont été pollinisées par le poppers et ont donné naissance à de futures femmes. Je me souviens qu'au petit matin, j'ai décollé les 3 ongles qui me restaient et je les ai offerts à mes copains PD avec qui j'avais dansé toute la nuit. Je les ai offerts comme reliques femmes, précieuses, abîmées et brillantes. En portant mes faux ongles, j'allonge mes mains, je les rends immenses, impressionnantes, j'amplifie mes mouvements, je fais entrer mon corps dans une technologie de pointe. En portant mes faux ongles, je m'arme. Mes ongles sont des griffes, je deviens une femme dangereuse et menaçante. En portant des faux ongles, je deviens dragueuse, je caresse des joues, des torses, l'intérieur des paumes et je griffe le dos de mon amante en lui laissant des stigmates pour le lendemain. En portant des faux ongles, je m'empêche, je me rends dépendante des copaines, je leur demande de me faire les lacets de mes baskets, d'ouvrir cette canette de bière, de retirer ma carte du distributeur à billets. J'affirme que je suis vulnérable et j'apprends à demander de l'aide. Quand j'ai compris que j'étais Gwyn, j'ai eu le sentiment que cette identité me permettait de répondre à 1000 questions. Et quand je me suis dite femme, ça m'a posé 1000 questions. Ça a ouvert 1000 sujets avec beaucoup de contradictions, beaucoup d'incertitudes et ça m'a passionnée. En grandissant dans un monde où la misogynie est le ciment de toute structure, être femme, c'est courageux, comme dit Joan Nessel, et ça permet de rebrousser chemin pour découvrir des espaces inédits et des amitiés puissantes. Être femme, ça se joue beaucoup dans le regard. Choisir le regard qu'on porte sur soi. Choisir le regard qu'on porte sur le monde. Choisir le regard que les autres vont porter sur nous. Et choisir le regard qu'on porte sur les autres. Alors les femmes, merci pour les regards. Merci pour les clins d'œil, les questions, les artifices. Merci de mettre le feu aux poudres.
Merci beaucoup, Lucie, Rita, Lisa. J'imagine que ça vous évoque aussi des souvenirs, ou en tout cas, je sais pas, est-ce que vous avez le souvenir d'un événement qui a fait que votre vie de femme a commencé ?
Oui.
Vous n'êtes pas obligé de raconter, mais vous pouvez.
Si, on va raconter. Tu commences ?
D'accord.
Alors, Rita.
Alors, moi, je pense que d'une certaine façon, j'étais peut-être plutôt femme avant d'être queer, que je portais des faux ongles depuis longtemps, mais qu'en même temps je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que j'adorais avoir des faux ongles, mais je mettais pas d'après-shampoing et je savais pas faire une full face. et toujours un truc, l'impression d'être un peu à côté de la plaque. Et bon, ensuite j'ai été queer, mais il y a une connexion qui s'est pas faite dans ma tête. Et heureusement, comme je n'existe qu'à travers le regard masculin, c'est un date OkCupid qui m'a mis au courant pendant un date de confinement. Une personne pour qui je pense que c'était évident que je savais que j'étais femme, qui m'a dit genre blablabla, je ne sais plus ce que c'était la phrase, mais c'était genre « Oui, les femmes comme toi, non. » Et là, feu d'artifice dans ma tête. Mais je suis femme, en fait. Ah, mon Dieu. Et beaucoup de choses ont fait sens à partir de là. Il y a eu cet événement, notamment.
Et toi, Lisa ?
Événement un peu similaire, où je montrais, c'était en 2016, je montrais un Tumblr à ma copine de l'époque, un Tumblr qui s'appelait Hard Femme Vintage. Je ne sais pas si vous connaissez ce Tumblr, bon. Donc c'était des meufs méga stylées, des femmes méga stylées avec des grosses chaussures à plateforme, on aurait dit des extraterrestres. Enfin, j'adorais l'esthétique, les chaussures et tout, et je lui montre en mode oh, j'aime trop ces chaussures, je veux les mêmes, non. Et du coup elle me dit ah, Art Femme Vintage, ah c'est des femmes. Et là je fais hein. C'est quoi des femmes ? Elle me fait bah c'est toi. Et là pareil, feu d'artifice dans mon cerveau, réalisation, déréalisation, re-réalisation. Je comprends ce qui m'arrive. Et là je découvre en fait tout un tas de choses. En fait tout s'aligne au bout d'un moment.
Une sorte de deuxième coming in, deuxième coming out quoi.
Exactement, ouais. Exactement. Surtout qu'en plus j'ai beaucoup souffert. Enfin beaucoup souffert. Non, j'ai peu souffert.
Elle a énormément souffert.
Vraiment, j'ai pas du tout souffert. Mais... mais c'est vrai que j'ai souvent été mise de côté dans la communauté lesbienne avant de connaître ce terme-là. Parce que c'est vrai que j'avais des ex qui m'avaient traité de stéréotypes de la féminité, ouais. Ce genre de choses.
Faute lesbienne un peu, genre tu passes pour hétéro quoi.
Totalement. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas grand-chose à leur dire, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'avais même plus besoin de me justifier. C'est bon.
Moi, je pensais en t'écoutant, Lucie, à un roman qu'on m'a offert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Femme magnifique et dangereuse de Kai Sheng Tom, qui a été publié en 2021 dans la traduction de Kamala Mackerel. Et il y a ce truc aussi, j'ai l'impression, peut-être dans la culture femme, mais je ne suis pas concernée, quoique, vous me direz, de ce truc un petit peu magique. Toi, tu dis, voilà, dès que j'ai mes ongles, un petit peu, il y a quelque chose un peu de transcendant, transcendantal qui se passe. Et il y a ces personnages-là aussi dans ce roman qui relèvent aussi un petit peu du conte, de quelque chose d'un peu fantastique, où les femmes, elles ont aussi des pouvoirs magiques. Alors derrière le terme femme, c'est aussi beaucoup de femmes trans qu'on parle, donc c'est encore peut-être un sujet un peu différent. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une espèce d'un peu de mythologie autour de ce terme femme aussi. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous inspire, ce que je dis.
Ouais, je pense que les attributs femmes ont tout un lien avec la magie. En fait, vu que c'est la féminité, c'est aussi les apparats, c'est pas que... le maquillage, etc. Hein, of course. Mais ça transparaît par ce genre de choses-là qui sont en fait comment on appelle ça quand on met des trucs sur soi, hein.
Des attributs.
Ouais, des attributs,
Accessoires.
Des accessoires, en fait, c'est ça transparaît ça, les cheveux, notamment les cheveux longs d'ailleurs, les boucles d'oreilles, les bijoux, etc. Tout ça,
comme
c'est
une armure un peu, quoi.
Oui, ça se porte en fait, et c'est sûr que on peut un peu disparaître si on enlève tout ça en tant que femme. Évidemment, notre attitude, notre énergie, la vibe et tout, ça transparaîtra d'une façon ou d'une autre. Mais si on veut un peu gommer, c'est ça qu'on gomme en premier. Évidemment, que ce soit le maquillage ou les bijoux, il y a une forte portée magique. Il y a une forte valeur, en tout cas, de protection. C'est quand même ancestralement... utilisé comme tel, et je pense toujours utilisé comme tel, le parfum, le maquillage, tout ça, c'est une protection divine, quoi.
Merci beaucoup, Rita Elisa, d'être venue nous parler d'identité femme et donc de cette soirée mini-jupe maxi-cerveau, c'est ce samedi, le 7 mars, à partir de 19h30 à la Flèche d'Or. On vous met le lien de la billetterie sur radiocampusparis.org à la page du lobby. Vous restez avec nous. Et puis, dans un instant, on parle de cinéma queer avec Elsa et Ilana de Tu Gates Quoi. À tout de suite. Maya, extrait du prochain album de Mélissa Lavaux à l'instant dans le lobby de Radio Campus Paris. Le lobby où deux invités viennent de nous rejoindre. Bonsoir Ilana et Elsa.
Hello.
Bienvenue, vous êtes les fondatrices de Tu Gates Quoi. Alors à l'origine c'est un compte Instagram où vous publiez des recos et des critiques de films et de séries, et pas que, on va en reparler, avec un regard queer et féministe. Et désormais c'est aussi un ciné-club, le Tu Gates Club, c'est ça ?
Ouais, exactement.
J'avais l'impression que j'étais en train de dire une bêtise. Non, tout va bien. Puisque vous organisez des projections de films, et la prochaine, c'est ce jeudi au Méliès à 20h30, le 5 mars, donc, avec au programme Taekwondo du réalisateur argentin Marco Berger. C'est comme ça qu'on dit, hein, je ne dis pas de bêtise.
Il y a un coréal aussi.
Pardon, dont j'ai pas donné le nom.
Non, t'inquiète. Martin Farina.
Voilà, bah super, comme ça on a toutes les infos. Vous nous pitchez un peu le film en quelques mots ?
Ouais, du coup, Taekwondo, c'est un film gay de Martin Berger, et c'est un film qui se passe dans une villa en Argentine l'été, et c'est une bande de potes, que des mecs qui sont au bord de la piscine, torse nu, en train de parler de trucs de mecs, et subtilement, une petite histoire naît entre deux personnages, mais c'est vraiment chill, quoi.
Ok. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce film sorti en 2016? C'est pas, il me semble, le plus connu de ce réalisateur. Peut-être que les auditeurs auront un peu plus entendu parler du Colocataire, qui est sorti en France en 2020, qui poussait aussi... Alors, j'ai pas vu ni l'un ni l'autre des films, mais de ce que je me suis renseigné, le point commun, c'est il va assez loin dans la représentation du désir PD.
Ouais.
Il n'est pas d'accord.
Non, mais enfin... Il va très loin, enfin dans la plupart de ses films, il va très loin dans le corps nu, enfin la nudité, beaucoup. Mais dans Taekwondo, le désir, il est ultra présent, mais il va pas forcément loin en termes de subversion, par exemple, pas dans Taekwondo, quoi.
Oui, et puis c'est pas explicite, enfin ça reste assez implicite et subtil, quoi.
On va dire. Dans Taekwondo, on est beaucoup dans un truc très très subtil, alors que dans d'autres
qui passe
de
quoi
films,
par le regard, ouais, par voilà, un petit beaucoup, peu, on beaucoup. Se touche, mais pas vraiment.
Exactement.
Mais,
et ouais. aussi, du coup, c'est sur la socialisation hétérosexuelle. Ouais. Du coup, c'est comment créer du désir, vivre son désir au milieu de que des mecs hétéros qui potentiellement pourraient le juger ou ne pas comprendre ce genre de choses.
Moi, ça me rappelle ce que vous dites là, un peu des représentations queer qui ne s'avouent pas dans certains films. Parfois c'est un sous-texte de queer qui est très flou ou parfois carrément du queerbaiting. Je pense à Luca, le Pixar qui est sorti un certain temps.
Ok, ouais.
Ces garçons sont homosexuels.
Ah, oui, on est d'accord.
Et oui, ouais. C'est une représentation qui est un peu shady, on ne sait pas trop ce qui se passe, pourtant c'est clair.
Ouais, bah Marco Berger, il travaille vraiment là-dessus sur l'homoérotisme et du coup une espèce d'ambiguïté entre des personnes supposément gays mais supposément hétéros aussi.
Et supposément bi aussi.
Ouais, c'est ça, exactement.
C'est un cinéma de bi.
Ouais, c'est vraiment un cinéma. Ouais, 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 de ouf. Et du coup, c'est exactement ce genre de représentation là, quoi. Mmh.
Après, pour le coup, dans Lucas, comme c'est des enfants, ça joue beaucoup sur la limite entre genre l'amitié. L'amour, quoi. Enfin, du coup, comme c'est des très très jeunes, c'est un peu.
Mais les premiers émois amoureux de la cour de récréation du collège.
Mais je pense que pour le coup,
quoi.
Dans Lucas, ça repose beaucoup sur l'interprétation du public, tu vois, qui va du public LGBT qui verrait ça, alors que je pense pas sûr qu'un public hétérosexuel le percevrait. Tu vois, on est plutôt dans du message un peu codé.
Oui, et puis.
Plus dans ça, je trouve que dans Taekwondo, c'est plus évident pour le coup. Mm-hmm.
Et cette projection de Taekwondo, elle sera suivie d'une rencontre avec Sébastien Corral, qui est le fondateur de l'association Le Chien qui aboie, une asso qui promeut la diffusion du cinéma latino-américain en Europe. Voilà, comme ça, les auditeurs auront toutes les infos. Le mot-clé de ce ciné-club, en tout cas de ce cycle de cette programmation, c'est la joie queer. C'est quoi les critères un peu pour choisir un film qui va rentrer dans ce cycle de projection joie queer?
En fait, nous, déjà, on avait envie de projeter des films joyeux, enfin de montrer des films joyeux, et on aime bien travailler et parler de thématiques autour de l'amitié au cinéma. Enfin, c'est des choses qui nous parlent. Mmh. Et du coup, on trouvait que dans la thématique de joie queer, il pouvait y avoir cet axe-là ou des représentations, en tout cas LGBT, qui sont pas juste romantiques ou militantes, mais qui sont aussi plus des moments un peu de bonheur, quoi.
De tendresse.
Et je pense de douceur aussi. Pour le coup, là, les deux films qu'on a choisis, du coup, le premier film de notre cycle, c'est Trois Tristes Tigres, du brésilien Gustavo Vinagre. Et du coup, en termes de joie, on n'est pas forcément dans quelque chose de très, très expressif. Hein. C'est quand même beaucoup de douceur, de care et tout. Donc, c'est pas la joie des grosses comédies, par exemple, qui peuvent être tout à fait très cool aussi. Mais du coup, sur les deux choix qu'on a fait, c'est une façon de percevoir la joie qui est peut-être un peu plus entre les lignes, quoi. Et aussi dans Trois Tristes Tigres, on avait aussi envie de mettre en avant des films qui s'amusent avec la forme. Et du coup, ce qui n'est pas du tout le cas pour Taekwondo, mais dans le premier film, ça part un peu dans tous les sens, ça va sur plusieurs registres et tout. Et on trouvait que ça correspondait pas mal aussi à la joie queer, mais en termes de création, quoi.
Ouais, là, dans Taekwondo, la joie queer, c'est plus le fait que ça soit pas un problème, en fait, d'être LGBT, c'est juste du bien-être... avoir un peu du désir, qui s'esquisse, prendre le temps, quoi. On aime bien ça.
Alors, d'homoérotisme, il est question dans Taekwondo. Il en est aussi, ça me fait une transition pour parler de la série du moment, qui est Heated Rivalry, série américaine qui raconte l'histoire d'amour et de sexe entre deux joueurs internationaux de hockey sur glace. Oui, car il s'agit de hockey sur glace, si jamais on rate l'info. Tout Instagram est en ébullition à propos de cette série, pour le meilleur et pour le pire. Vous, ça vous a pas tant plu que ça, ai-je lu sur l'Instagram de Tuget quoi?
Ouais.
Vous nous dites en
c'est
quelques mots
pourquoi. C'est marrant parce qu'on a sorti un post hier.
Ouais.
sur Itty de Rivalry. Ouais, nous, on est un peu perplexes de cette série pour plein de raisons. Notamment, leur relation, en fait, on trouve qu'il y a un peu de toxicité dans leur relation et qu'il y a... que la série elle a tendance un peu à romantiser la toxicité entre eux. Ça, c'est des représentations qui ne nous plaisent pas trop.
Et aussi, je trouve que... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aimerais bien voir dans les contenus LGBT, à titre très personnel, c'est aussi un peu genre un autre discours sur l'amour et sur comment on peut faire des relations. Et j'ai l'impression qu'avec le format série... Après, cette série, elle est... Enfin, mainstream, donc peut-être qu'il n'y a pas l'espace aussi pour discuter de ça. Mais je trouve que dans le format série, il y a moyen de traiter le relationnel un peu autrement, vu que c'est un format un peu plus long et tout. Et du coup, à ce niveau-là, c'est un peu déceptif, parce que pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très classique.
C'est marrant, moi, j'ai pas trouvé ça si classique, justement, le fait que le sexe soit aussi central dans la relation des deux personnages. Je me suis dit, tiens, bah, c'est chouette aussi de montrer ça dans un truc très mainstream, le fait de se dire, bah, la rencontre, elle peut aussi se faire par le sexe,
grave,
sans
que
ça soit...
C'est vrai. Après, ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que du coup, plus leur relation, elle va dans genre un truc fusion, amour et tout, plus genre le sexe, il est moins dans des dynamiques de domination aussi. Et du coup, je trouve que ce qui était étonnant dans les premiers épisodes, c'est un peu genre ce soft BDSM qui est représenté. Voilà. Et du coup, c'est comme si c'était une sexualité qui n'était pas une sexualité d'homme amoureux d'un coup. Enfin, avec le sixième épisode, on peut comprendre ça, alors que pour le coup, les scènes de sexe étaient intéressantes à ce niveau-là, je trouve, de comment on peut être dans des rapports de domination et que ça soit cool. Ouais, voilà.
Alors, vous ne regardez pas que des séries estampillées LGBT+, et c'est ça qui est aussi très intéressant avec Too Gay de quoi. Vous avez aussi un avis sur d'autres productions qui font beaucoup parler, voire qui sont carrément encensées. On peut penser à votre post sur les séries Brave 2, Empathie ou encore Adolescence. Des séries qui ont fait beaucoup parler d'elles à leur sortie avec des critiques dithyrambiques, mais pas chez vous.
Pas tout. L'agence, c'était un poste en mode c'est quoi le plaisir coupable de quitter l'agence. Mais c'était pas écrit par nous pour le coup.
Mais c'est vrai qu'on a un gros contenu de hate watching quoi. On aime bien, on adore rager. On dit tout le temps. Ouais bah c'est sûr que ces séries là, Bref, Empathie, Adolescence, c'est des séries qui ont énormément buzzé et nous qui nous ont posé problème et du coup on s'est exprimé dessus. On essaie de prendre le temps d'argumenter, de sourcer. Et d'expliquer pourquoi factuellement il y a des choses qui vont pas, que ce soit dans la production, dans le contexte des séries, mais aussi dans le scénario, enfin dans le contenu même de la série, quoi.
Après, je pense que notre prisme, c'est beaucoup l'histoire, en tout cas la question des représentations. Du coup, après, on entend que des discours peuvent être autres, c'est des prismes d'analyse qui peuvent se contrarier parfois et tout, qui par exemple ne prend pas forcément hyper d'importance autour de la question de la forme et tout, même si on s'y intéresse, mais on est beaucoup sur... comment, par exemple, la relation amoureuse, elle est représentée, comment elle a été représentée.
Et moins sur est-ce qu'il y a tel des choses plan, tel cadrage.
Voilà.
Tel...
C'est moins notre prisme à nous. Nous, c'est vraiment...
Quand ça sert, cette analyse-là. Quoi,
En tout cas. C'est ça. Mais pour le coup, ce que tu disais, c'est qu'on a vraiment à cœur d'avoir quand même un peu... Enfin, en fait, de mettre en avant ce qu'on regarde, et on regarde quand même des choses diversifiées. Et on n'a pas envie de... Enfin, déjà, c'est chouette d'analyser des contenus hétéros faits par des hétéros pour des hétéros avec un prisme féministe. C'est quand même agréable, moi, je trouve. Enfin, c'est un hate watching.
Surtout sur ces séries-là où j'ai l'impression que c'est assez rare de tomber sur une critique négative.
Et puis après, on est aussi sur la question, quand même, la télé-réalité. Toi, Elsa, t'as envie d'en parler et tout parce que c'est un contenu que tu regardes. Donc, ça, pareil,
on va y venir
chouette.
Parce que ce que j'allais dire, c'est que là, donc, effectivement, vous avez eu des critiques assez sévères, mais justifiées, je dis pas, de ces trois séries assez mainstream. Évidemment, le but de Too Gay de quoi, c'est pas de défoncer toutes les séries mainstream, parce que comme je le disais, vous avez aussi un post autour de ce guilty pleasure de l'agence. Donc l'agence, c'est cette série Netflix où on suit une famille d'agents immobiliers extrêmement fortunés. Par contre, vous nous avez aussi proposé une critique, mais alors au vitriol, de Love is Blind, autre programme Netflix où des célibataires se demandent en mariage sans jamais s'être vus. C'est à l'origine une émission américaine qui mobilise tout ce que la télé-réalité a fait de pire, en fait. Et le programme s'est décliné dans de nombreux pays, notamment en France l'année dernière. Pourquoi s'attaquer à Love is Blind alors que, bon, on ne s'attend pas à grand chose quand on est queer, quand on est féministe en regardant Love is Blind?
Bah, en fait, figure-toi que je suis une immense fan de Love is Blind.
Ouais.
Donc, j'ai certes attaqué, mais ce post appelé une partie 2 où je faisais une déclaration d'amour à Love is Blind parce que je trouve que c'est certes une série ultra hétéro et il y a genre mille choses horribles, mais il y a aussi des moments pépites, mais de solidarité féminine ou de trucs de ouf qui se passent, mais vraiment. Hein. Et moi, mais Love is Blind, c'est une des séries que je regarde le plus. C'est tous les midis, ma pause déj, c'est Love is Blind. Donc oui, pourquoi s'attaquer ? Bah, parce que je pense qu'il y a des choses qui me font violence quand même et que c'est important d'en parler parce que je sais que c'est une série qui est ultra regardée et qu'il y a d'autres personnes qui ont dû partager les mêmes moments de révolte que moi. Mais en même temps... J'ai aussi envie de, à un moment, je parlerai de pourquoi j'aime autant Love is Blind.
Ah ouais.
Puis en vrai, quoi qu'il, la télé-réalité, ça te fait du bien aussi à regarder, donc faut pas.
Ouais, moi, j'adore la télé-réalité.
Oui, parce que c'est vrai que vous parlez de guilty pleasure pour l'agence, mais peut-être que c'est pas si guilty que ça, finalement.
Non,
pour ça, c'est toute une question. Mais
non. Moi, je crois pas trop au guilty pleasure. En vrai, je suis en mode, il y a du plaisir. Voilà quoi. Je ressens du plaisir en regardant certaines choses et je l'assume.
Et d'ailleurs, vous vous arrêtez pas aux séries. Je suis aussi tombée donc sur une critique des vlogs d'août de Lena Situation. Donc il y a vraiment de la place pour toutes les productions audiovisuelles, quoi.
Ouais, les vlogs d'août, ouais. Ouais, c'était cool aussi, les vlogs d'août. On avait fait ça en B2B avec Laura, une amie. et en fait, on voulait refaire d'ailleurs l'année dernière, mais là, c'était trop. Là, franchement, la situation, elle est partie trop loin et on n'assumait pas d'encenser.
Alors, on vous reçoit, Ilana et Elsa, quelques jours après les Césars. C'est l'occasion d'en dire un tout petit mot. C'est une édition où les sélections LGBT+ ont été assez peu récompensées, à l'exception notable de Nadia Meliti, qui incarne le personnage principal de La Petite Dernière d'Afia Herzi. C'est l'adaptation d'un livre de Fatima Das, sorti en 2021. On avait reçu l'autrice à cette occasion il y a 5 ans déjà. Un seul César pour un film qui avait quand même 7 nominations. Quelle réaction vous avez ? C'est aussi, vous notez aussi que c'est effectivement Nadia Meliti, c'est une comédienne de 23 ans qui a été révélée par un casting sauvage, ce qui pose aussi peut-être question. Voilà, je vous laisse la parole.
Au César, c'est sûr. Moi, je veux bien prendre la partie casting sauvage.
Je te sens là.
Ilana.
Le casting sauvage, c'est un peu une particularité du cinéma français. Ouais. Et en soi, ça a du sens... pour peut-être décloisonner un peu qui sont les acteurs et les actrices d'aujourd'hui. Mais la problématique du cinéma français, c'est que le César, c'est une vitrine pour dire qui était en casting sauvage. Mais si, en fait, moi, j'avais un peu regardé, par exemple, toutes les personnes qui étaient genre étiquetées casting sauvage, c'était quoi leur carrière après ? Et en fait, après, c'est souvent des personnes qui disparaissent. Ouais. D'ailleurs, l'acteur de l'histoire de Souleymane, là, il a déclaré des trucs à propos de ça, et très stylé parce que c'est très rare les acteurs ou actrices qui le font.
Oui, on reste dans le discours de grande réussite.
Ouais, exactement. Et lui, il parle vraiment du système français et tout. Donc, c'est très stylé. Et après, en fait, la plupart des acteurs, actrices n'ont pas de carrière, quoi. Donc, et aussi, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on met sous le rôle de l'acteur et de l'actrice. Les personnes en casting sauvage, la plupart du temps, c'est pour jouer leur rôle de personnes minorisées. Donc ça a du sens politiquement, mais en même temps, c'est après, est-ce qu'on leur offre aussi d'autres rôles, etc. Et aussi, c'est cool de voir à quel point ils peuvent aussi déstabiliser des fois l'ordre établi, pardon. Parce que par exemple, il y avait Dylan Roberts, là, de Sherazade, je ne sais pas si vous vous rappelez. En gros, tu regardes un peu tous les gens qui n'étaient pas du cinéma français et qui ont des récompenses. C'est hilarant, comme ils ne savent pas, entre guillemets, se comporter. Ils savent très bien se comporter, mais ils ne le font pas dans les codes. Et du coup, tu as tous les gens des Césars qui sont trop mal et tout. Et Dylan Roberts, du coup, il allait en prison et tout. Et il avait fait tout un discours qui n'était pas dans les codes, quoi. Et pareil pour Sarah Forestier à l'époque.
Oui, vous avez fait un post hyper intéressant, d'ailleurs, le César et les contradictions internes
c'est
des Césars.
C'est ça, exactement. Ouais. Et du coup, tout le monde est très gêné, alors que derrière, c'est la vitrine du casting sauvage, la France, machin.
Et puis, on va conclure sur une dernière question. Il y a un autre film qui était nommé pour le meilleur film, qui a fait beaucoup parler dans la communauté queer, c'est La Pampa. C'est un film qui se déroule dans le Maine-et-Loire, qui aborde la question de l'homosexualité en milieu rural, avec à la clé, spoiler alert, une fin assez tragique. C'est aussi un film qui a été remarqué à Cannes. On a l'impression quand même que le cinéma très institutionnel s'intéresse aux productions LGBT+, quand ça se finit mal quand même, ou quand les personnages sont torturés. Ça change pas.
Ouais, 100%. Même d'ailleurs, le Festival de Cannes, là, les films LGBT qui étaient l'année dernière, c'est un peu pareil, quoi. C'est The History of Sound, film gay dramatique, La Petite Dernière, pareil, qui est très triste.
Eh ben merci beaucoup. Je rappelle en tout cas que le 5 mars et ce jeudi, on va au cinéma Le Méliès pour la projection de Taekwondo avec vous. Tu gates quoi ? Merci beaucoup Ilana et Elsa. Je précise aussi, est-ce qu'on peut contribuer aussi aux critiques ? Parce que je sais qu'effectivement, on peut vous écrire sur Instagram.
À 100%. Nous, on aime trop.
Ouais.
Bon, super. Voilà. on vous met aussi le lien sur le site de Radio Campus Paris à la page du lobby. Merci beaucoup à vous deux. Merci aussi à vous, Rita et Lisa du collectif Femstival. Leur troisième édition de la mini-jupe Maxi Cerveau, c'est ce samedi 7 mars à la Flèche d'Or à partir de 19h30. Et puis merci à vous, Lucie et Mal, c'est la fin de cette émission. À la réalisation ce soir, c'était l'incontournable Margot Page. Merci Margot.
Merci Margot.
Et puis dans un instant, restez sur Radio Campus Paris, on vous emmène au pays des raves. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.
Merci beaucoup.
Salut Margot.